Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Je suis avec, une fois de plus, un scénariste de bande dessinée, Bertrand Gallic, que j'ai rencontré il y a pas mal d'années pour un album sur la guerre d'Espagne et sur un sous-marin mystérieux à Brest, qui est un superbe album qu'il a fait avec l'ami Chris. Bertrand, bonjour. Je te pose la question rituelle que je pose à tous mes invités. Qui es-tu ?
Bonjour Stéphane, je suis Bertrand Gallic, tu l'as dit, Brestois, Breton, scénariste de bande dessinée depuis pas si longtemps que ça, depuis une petite dizaine d'années, et j'ai écrit à ce jour une petite dizaine aussi d'albums, des ouvrages qui souvent sont inscrits dans la grande histoire, qui se fondent dans le passé.
Tu es prof d'histoire aussi, je crois.
Oui, c'est ça. Oui, je suis enseignant dans un collège brestois. J'enseigne à mi-temps depuis quelque temps, puisque écrire toutes ces choses, c'est chronophage. Voilà, donc j'essaye de jongler entre mes deux activités professionnelles.
Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture de scénarios de bande dessinée ?
Ce qui m'y a amené, c'est, je dirais avant tout, les copains qui ont mis le premier à l'étrier. Tu citais Chris tout à l'heure, il est de ceux-là. Arnold Gueflec aussi m'a bien encouragé à un moment donné.
Et quel est le plaisir qu'on retire à raconter des histoires en bande dessinée quand on est en même temps prof d'histoire, donc on a aussi une formation d'historien un peu scientifique.
On est deux activités qui se répondent bien en fait, parce que dans les deux cas, il s'agit d'exposer, de raconter, de faire vivre des histoires. Alors en classe, à un public qui est devant nous, qui faut essayer de captiver, sinon ça peut être chaud. Hein. Et puis à travers les livres aussi, on raconte l'histoire, on raconte des histoires. Voilà, c'est un autre média, quoi, une autre façon de faire, mais les deux sont complémentaires pour moi. J'aime bien cette complémentarité.
Alors là, on se parle pour un album absolument génial. Le titre, c'est Oh, c'est vrai, mais je reçois que des gens que j'aime dans cette émission, donc c'est l'avantage. Le titre, c'est Fukushima, c'est en rapport avec la catastrophe nucléaire qui a eu lieu il y a maintenant une dizaine d'années, c'est un peu un album pour l'anniversaire de cette catastrophe. Mm-hmm. Comment tu es arrivé à écrire sur cet événement ?
Pour être tout à fait honnête, ce sont les éditions Glénat qui sont venues à ma rencontre. Il y a 3 ans et demi, quelque chose comme ça, maintenant, par le biais de Christian Blondel, directeur artistique des éditions en question, qui est venu me retrouver à Blois alors qu'on était en pleine promo pour Nuit Noire sur Brest, que tu évoquais aussi tout à l'heure avec Chris. Et il est venu me voir parce qu'il avait aimé Un maillot pour l'Algérie, et publié chez Air Libre depuis. Et voilà, il me voulait savoir si je connaissais la personnalité de Masao Yoshida, le directeur de la centrale de Fukushima Daiichi au moment de la catastrophe, parce que il pensait que le témoignage de ce personnage-là pouvait servir de base à un récit en bande dessinée, un récit de type thriller. Si on était au cinéma, on parlerait de film catastrophe, de huis clos anxiogène. Enfin, je sais pas, il y aurait plusieurs façons d'en parler. Voilà. Donc moi, je connaissais pas Masao Yoshida. J'avais vécu la catastrophe par écran interposé en 2011, de façon à distance, quoi. Mm-hmm. Mais la lecture du témoignage, parce qu'évidemment, il avait amené avec lui le témoignage en question, et je suis reparti avec, il était malin. La lecture du témoignage m'a convaincu qu'il y avait effectivement un récit hyper vivant, hyper sensible, touchant. Il pouvait déboucher sur quelque chose d'un peu engagé aussi, parce que la question du nucléaire ne peut pas laisser complètement froid. C'est par le biais de Christian Blondel que ça s'est passé. Je l'ai rappelé 2 semaines après en lui disant, il y a effectivement tout ce qu'il faut, je veux faire cette histoire.
Est-ce que tu peux rappeler, parce que ça fait 10 ans, donc il y a quand même pas mal de gens qui soit l'ont pas vécu, ou étaient trop jeunes ou qui s'en rappellent plus. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qui s'est passé? Parce que c'est totalement improbable et en même temps, c'est vraiment arrivé.
Eh oui, la réalité dépasse la fiction, parfois. Là, c'est carrément le cas. Tout débute le 11 mars 2011. Au Japon, heure locale, 13h36, il y a un séisme de magnitude 9.1 qui déclenchait dans l'océan Pacifique, plus ou moins à 200 bornes du nord-est du Japon. C'est monstrueux, 9.1 sur l'échelle de Richter, c'est un monstre. Ce monstre déclenche un tsunami, une vague, qui vient déferler trois quarts d'heure après, donc sur la région de Fukushima notamment. Voilà, on a vu ces images-là du tsunami dévastateur là, qui rentre dans les terres et qui balaye tout sur son passage. La centrale, elle est au bord de l'eau. La centrale de Fukushima Daiichi, et on en reparlera sans doute, elle est au bord de l'eau. Les réacteurs se retrouvent, les générateurs qui refroidissent les réacteurs se retrouvent noyés, générateurs de secours. Et donc, voilà, la catastrophe qui est naturelle au départ devient une catastrophe technologique dans un second temps.
Quel est le risque de tout ça? Donc, on ne peut plus refroidir le cœur. Qu'est-ce qui peut se passer?
Le cœur, du coup, peut rentrer en fusion. La pression augmente dans l'enceinte où ce cœur-là est renfermé. Et le risque, c'est des explosions d'hydrogène. Ça s'est passé trois fois, deux fois sur, sans doute trois à Fukushima. Trois réacteurs ont explosé. Et donc, sur le troisième, c'est discussion. Et donc là, ça relâche évidemment de la radioactivité.
Oui, donc les habitants autour sont évacués, il faut absolument qu'il n'y ait plus personne. Sauf que dans la vraie histoire et dans l'histoire que tu nous racontes, il y a quand même un groupe de personnes qui sont dans la centrale parce qu'il faut faire quelque chose.
Ah oui, ils sont dans la centrale. Et d'ailleurs, ils ne vivent pas la catastrophe, ils ne voient pas le tsunami par exemple. Ils savent qu'il y a un problème parce que les lumières s'éteignent. Il n'y a plus d'électricité. Ils n'ont pas vu la vague, comme les gens qui étaient à l'extérieur ont pu la voir. Ils vont être confrontés du coup au drame. Et il va falloir qu'ils essayent à l'intérieur de cette centrale de sauver ce qui peut être sauvé, quoi. Voilà, donc ça a été terrible, hein, terrible.
Oui, et surtout, ils sont complètement enfermés, parce que ça aussi, c'est ce qui fait, je trouve, la force de la vraie histoire, mais surtout de la bande dessinée, et on peut la lire comme ça, comme tu disais, c'est un thriller, c'est un huis clos.
Ils sont coupés du monde.
Ils sont totalement coupés du monde. La seule façon qu'ils ont d'avoir des nouvelles, c'est leur patron qui communique avec eux par visioconférence.
C'est ça, dans la cellule de crise.
Le Premier ministre arrive en hélicoptère, mais il reste quelques minutes et il sert finalement absolument à rien. Et ces gens sont absolument livrés à eux-mêmes.
Les instances les dites supérieures sont dépassées par les événements. C'est valable pour le pouvoir politique, incarné par notamment Naoto Kan, le Premier ministre, complètement à côté de la plaque. Et en gros, tu l'as dit, hein, il déboule en hélicoptère, il engueule tout le monde, il repart aussi sec. Merci d'être venu. Quant aux dirigeants de la société TEPCO, la société électrique TEPCO, qui gère cette centrale de Fukushima Daiichi, c'est pareil, ils sont complètement dépassés. Et donc, à l'intérieur de la centrale, et au premier lieu, Masao Yoshida doit prendre des décisions par lui-même, prendre ses responsabilités. Il va désobéir à plusieurs reprises parce qu'il est coincé, il n'a vraiment pas le choix. Il n'a pas d'aide de l'extérieur.
Il n'a pas le choix, et surtout, il doit prendre le risque d'envoyer ses collègues, ses amis, ses copains... Oui. Dans des endroits d'une dangerosité extrême.
Et tout à fait, parce qu'il y a des fuites, il y a des explosions, c'est la guerre. C'est la guerre.
Et quand j'ai lu ça, j'ai trouvé incroyable que ces choses-là n'aient pas été prévues. Mais bon, on ne peut pas tout prévoir, mais...
À commencer peut-être par protéger cette centrale qui est au bord de l'eau par une digue digne de ce nom. Parce que là, on a une digue en fait, qui protège la centrale, elle fait 5,70 m. La vague, elle fait 14-15 mètres au moment où elle vient percuter et inonder la centrale. Il y avait des rapports d'experts qui disaient que c'était pas peut-être. Il faudrait peut-être prévoir des travaux, en fait, parce qu'une vague de 10 mètres pouvait arriver un jour. C'était déjà arrivé, en fait. Elle a pas été. Les travaux ont été repoussés, j'imagine, pour des questions budgétaires, de gros sous.
Ce qui est intéressant, c'est que ce témoignage, il provient d'une sorte de commission d'enquête.
Oui, gouvernementale.
C'est ce que tu mets en scène et c'est ce qui se passe. qu'est-ce qui va lui arriver au directeur? Comme tu dis, il est livré à lui-même, il fait vraiment ce qu'il peut, il désobéit. Et là, on voit que dans la culture japonaise, c'est un truc qui n'est pas simple du tout.
Ah, c'est pas courant. Hein.
Il y a même des gens qui se rebellent en disant « mais le patron l'a dit, il faut le faire, quoi, sans réfléchir aux conséquences. » Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce directeur de centrale, une fois qu'il est passé dans cette commission?
Il est décédé, en fait, assez vite après. Hein. Il est décédé en 2013, alors, bizarrement d'un cancer, de l'œsophage. Mmh. Alors, on sent que ça serait malhonnête de ma part de dire qu'il est mort d'avoir des radiations, des choses inhalées à Fukushima. Il était aussi un fumeur assez invétéré. Mais n'empêche, il est mort d'un cancer. Comme d'autres personnes, d'ailleurs, à Fukushima, sont décédées de cancer, de leucémie, après les événements.
Il y a eu beaucoup de victimes dans cette catastrophe.
Alors, la catastrophe naturelle, on dit que c'est quelque chose qu'entre 18 000, 18 500 personnes seraient mortes du séisme et surtout du tsunami. Catastrophe nucléaire, il y a des désaccords complets entre les gens qui se penchent sur la question. Il y a eu, dernièrement, l'ONU, enfin dernièrement, en gros pour les 10 ans, l'ONU a déclaré qu'en fait, il y a eu zéro mort. Non, tout le monde n'est pas vraiment d'accord là-dessus. Il y a des chiffres qui varient entre 0 et 1500, 2000 morts du fait de. Mais comment on compte ces morts? Est-ce que les gens qui se suicident, par exemple, doivent être comptés dans les victimes de la catastrophe nucléaire ou pas? Enfin, il y a des débats, vraiment beaucoup de débats sur cette question-là.
Est-ce que dans ce que tu décris, il y a quand même des gens qui sont morts dans les explosions, dans la centrale, en fait.
Il y a de sources sûres, des gens sont morts dans la centrale.
L'autre chose.
Non, vas-y. Quelques unités. Hmm. On l'a retrouvé, par exemple, quelqu'un une grue est tombée, il est mort de cet accident-là.
Hmm. L'autre chose qui est presque. C'est presque drôle, ça fait partie des ressorts des films catastrophes. C'est qu'ils n'ont pas forcément les plans de la centrale. Ça aussi, c'est assez étonnant. Ils doivent les chercher dans des tiroirs, personne ne sait où ils sont.
Et dans le noir, puisqu'il n'y a plus d'électricité. Ils savent dans quel bâtiment, en gros, plus ou moins quelle pièce, mais ils perdent du temps à chercher, en effet, les plans, les notices, etc., etc.
Oui, parce qu'on imagine ça comme un... C'est quand même complexe, une centrale, mais là, ils doivent se débrouiller comme s'ils avaient un mécano dans les mains.
Ah bah complètement, ouais. Et c'est vraiment... ça tient parfois vraiment au bricolage, quoi. Je pense à ce moment-là qui est décrit dans la bande dessinée, qui est vrai, qui est véridique, c'est où les mecs vont quand même démonter les batteries de leur véhicule personnel pour remettre du courant électrique en salle des commandes. C'est hallucinant quand on y repense, quoi. C'est vraiment du bricolage.
Oui, c'est-à-dire qu'ils remettent en route plus ou moins une centrale nucléaire avec des batteries de voiture, quoi.
Ouais. La salle de contrôle, parce qu'il faut qu'ils vérifient les niveaux et tout ça. Et donc, c'est le courant électrique va être rétabli partiellement de cette façon.
Oui, parce que tout est contrôlé évidemment par des batteries d'ordinateur. Ils sont courants, ils sont totalement aveugles. Ils ne savent pas ce qui se passe au cœur des barres d'uranium.
C'est ça. Ils n'ont pas les infos. Et quelquefois, d'ailleurs, il y a une mauvaise perception de ce qui se passe parce que ils estiment que la pression est plus forte que prévu ou s'il y a plus de radiation que prévu, ils le découvrent sur le tas, en fait.
Et l'autre chose, il y a plein de choses qu'on ne peut pas raconter parce que c'est vraiment très riche, il se passe quasiment des choses à chaque page. L'autre épisode que j'ai vraiment aimé, c'est quand ils essayent d'ouvrir des vannes d'eau pour refroidir et qu'ils n'y arrivent pas. Ça, c'est, là, on a une petite course contre la montre qui est assez prenante.
Ouais, ça, parce qu'en fait, la plupart des vannes, normalement, sont actionnées par... ça serait complexe, mais elles peuvent être actionnées à distance. Mais comme il n'y a plus de courant, on est obligé d'envoyer des gens sur place, les confronter à l'atome, en fait, les mettre en danger, ils doivent se déplacer et utiliser de leur force physique, en fait. Mais voilà, c'est pas forcément toujours très bien huilé, en fait.
Oui, puis les gars, c'est pas forcément non plus des gens aguerris, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui sont dans les bureaux, qui sont en costume trois pièces et ils manient pas forcément les clés de 12 et des boulons.
Pas forcément, non. Ouais.
Ça c'est vraiment bien foutu. Et donc, comme tu disais, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on est dans un huis clos complet, on est dans un thriller, et même si évidemment on connaît la fin de l'histoire, puisqu'on on l'a un peu vécu, t'as quand même réussi à installer un vrai suspense.
C'était un peu le... Oui, c'était un enjeu de... d'amener... Enfin, j'avais deux enjeux. Il fallait qu'il y ait un rythme, il fallait qu'il y ait instauré du suspense, effectivement. Il fallait maintenir un certain... Jouer avec le niveau de stress, en fait, du lecteur, avec des rebondissements, tout ça. Mais j'ai été aidé, en fait, par les événements vrais. Voilà, les trames secondaires, les trames fictives qui viennent épouser la trame chronologique qui est l'axe principal du récit, vont essayer voilà de maintenir, enfin aider à maintenir cette course contre la montre, le côté haletant en fait du récit. Mais j'ai été bien aimé, enfin les événements en eux-mêmes étaient suffisamment stressants comme ça en fait.
Oui, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Alors, il y a une autre chose qui est assez passionnante, c'est que à la fois dans les dialogues, mais aussi à la fin, parce qu'il y a un gros dossier technique, historique et scientifique, t'arrives à faire passer quantité d'informations assez pointues quand même sur les centrales nucléaires.
C'était un enjeu, ça, de réussir à... Alors, de vulgariser, entre guillemets, sans prendre non plus les gens pour des imbéciles, parce que vraiment, c'était pas facile. Le fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est vraiment compliqué. Et voilà, heureusement j'ai été aidé par en cela par Pierre Feutet, qui est la personne donc qui fait le dossier en fin d'album. Il a été de très bons conseils à toutes les étapes d'ailleurs, parce que il a relu le scénario, il a reçu les pages de storyboard, des crayonnés, enfin il a donné des conseils, amené proposé des corrections à certains moments. Etc.
Ouais. Qui est-il ?
L'équilibre n'était pas évident à trouver entre. Au niveau de compréhension quoi, de l'histoire.
Oui, parce qu'il ne faut pas envahir le lecteur avec de la science en permanence, non. Au détriment de l'histoire, c'est ça le problème. Non.
Voilà, ouais. Ouais. Donc j'espère qu'avoir pu trouver cet équilibre.
Moi, je trouve qu'il y est, en tout cas. Quoi. Et est-ce que tu l'as fait lire à des gens qui sont un peu spécialistes du nucléaire en France ?
Oui. Bah Pierre Feutet en premier, du coup. Oui. Pierre, c'est le premier que j'ai contacté. Si tu tapes Fukushima sur Google ou un autre moteur de recherche, son blog arrive assez vite. Et un peu comme une bouteille à la mer, moi je lui ai écrit sur ce blog-là. Le gars il me recontacte dès le lendemain quand même. Le surlendemain je l'avais au téléphone et puis les quelques mois après j'étais dans les Vosges. Moi, le Brestois, je me retrouvais dans les Vosges chez lui. Et on a passé une semaine à travailler ensemble. Il m'a expliqué 10 000 choses, apporté beaucoup de documentation, parce qu'il n'y a pas que le témoignage de Yoshida, il y a beaucoup d'autres sources, d'autres documentations. Voilà, donc il y a eu lui, bien sûr. Et puis, dans mon entourage, j'ai d'autres personnes qui sont plus scientifiques, entre guillemets, que je ne le suis au départ, et qui ont lu aussi et relu.
Oui, parce qu'il y a de la documentation sur la centrale, parce que quand on lit l'album, je me suis surpris hier en le relisant à me repérer à peu près. C'est assez subtil. On voit où vont les gens, on voit quand ils reviennent, à peu près les distances qu'ils ont à parcourir. Ça rajoute beaucoup. En quelques cases, là, le dessinateur a réussi à nous donner une géographie de la centrale et à rajouter encore au stress et au suspense que vous avez installé.
Ouais, il faut rendre hommage à Roger Vidal, du coup, le dessinateur qui a réussi ce tour de force, effectivement, d'avoir à la fois d'un côté un dessin technique assez pointu. Dessiner une centrale nucléaire, c'est pas la portée de tout le monde, je pense. Il y a quelques tuyaux. Et puis, et d'un autre côté, ce même dessinateur est capable de dessiner des personnages asiatiques sans les caricaturer, en les rendant au contraire bien réalistes et très expressifs. Et ça, c'était un autre enjeu dans le cadre d'un huis clos. Il y a beaucoup de dialogues, les gens sont confrontés, et donc il y a des plans où on voit des gens qui discutent. Quoi. Il faut que ça soit vivant et crédible.
Oui, non, ça, c'est vraiment remarquable. Quoi. On s'est dit plein de trucs sur Fukushima. J'espère qu'on s'en est dit assez pour donner envie aux gens. En tout cas, moi, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Juste avant de finir sur Fukushima, j'ai lu aussi une adaptation des voyages de Gulliver.
Ouais.
Pareil, j'ai été charmé à la fois par le scénario et le dessin, je trouve, est fantastique.
Ah bah c'est très gentil. Là, vraiment, c'est Paul Etchegoyen. Ouais, l'auteur, il est complètement incroyable, c'est sûr. Pas du tout dans la même veine que Roger Vidal, hein. On a un tout autre type de dessin. Donc c'est l'adaptation en fait dont tu parles, là, c'est l'adaptation du troisième voyage de Gulliver, parce que Jonathan Swift a écrit 4 voyages pour ce cher Gulliver. Souvent on connaît les deux premiers, chez les Lilliputiens pour le 1, chez les géants pour le second. Donc le troisième, c'est celui qui va le conduire il va passer beaucoup de temps sur une île flottante qui est l'île de Laputa, qui est peuplée par des créatures un petit peu étonnantes. Et cette même île qui a inspiré Miyazaki, notamment dans son château dans le ciel. Voilà, pour les plus férus des auditeurs, enfin férus d'animé chez nos auditeurs, ils verront peut-être la référence. Je me suis vraiment éclaté. C'était une belle récréation d'écrire ce voyage de Gulliver, parce que j'ai écrit en fait en parallèle à Fukushima. Fukushima, j'étais vraiment dans une écriture au cordeau. J'ai souffert énormément parce que c'est tellement technique et c'est tellement dur pour les personnages. On a de l'empathie pour nos personnages. Et là, c'est franchement, on ne veut pas être à leur place, quoi. Les scénaristes étaient un peu à leur place, en fait. Donc, il y avait de la souffrance et puis il y avait la récréation avec Gulliver. Voilà. Les deux bouquins, c'est bien d'avoir pu faire ces deux-là en parallèle.
Ouais, c'était une de mes questions. Comme ils sont sortis à peu près en même temps, enfin, vraiment quelques semaines, quoi. Je me suis demandé si tu les avais écrits ensemble ou s'il y avait décalage.
Partiellement, mais pas complètement en même temps. Mais en fait, le dernier tiers de Gulliver a correspondu au premier, peut-être, en termes d'écriture, au premier de Fukushima.
Non, parce qu'il faut arriver à scinder son esprit en deux et passer d'un ouais. univers à l'autre.
Et... on est obligé de jongler, hein, en tant que scénariste. Il y a souvent plusieurs projets qui se côtoient. Voilà, c'est intéressant aussi pour ça.
Oui, mais là je reviens sur Gulliver. Je trouve que le dessin que je connaissais pas très bien de Paul Etchegoyen est absolument envoûtant. Il y a pas d'autres mots. On plonge dans l'histoire et on a beaucoup de mal à en sortir.
Ouais, il nous embarque avec son dessin. Il nous embarque en voyage en fait, clairement, Paul. Le livre a eu dernièrement un prix. Il a eu le prix de la BD bretonne 2021. On en est assez fiers.
Ah.
On est assez contents de ça, puisque tu en parles. Je me permets de le signaler aux auditeurs.
Bertrand, donc, je te remercie d'avoir passé ces moments avec moi pour parler donc, d'un truc absolument dramatique, mais à lire fantastique. Fukushima, c'est publié par les éditions Glénat. Ça fait 128 pages, c'est copieux et on prend beaucoup de plaisir. Ça coûte 18,50 €, voilà, c'est pas excessif. Et on a parlé aussi du troisième voyage de Gulliver, publié par les éditions Soleil, et là c'est au prix de 17,95 €. Donc c'est deux albums qu'il faut se procurer, totalement différents, mais qu'on peut lire en vacances sans problème.
Oui, je pense, oui. Ils vous mettront dans des ambiances différentes, c'est sûr.
Bah voilà. Bah, je te remercie beaucoup.
J'allais te dire que c'était un plaisir d'avoir participé à cette discussion et bonne continuation et à très bientôt.
Merci, à bientôt Bertrand.
Merci.
Bulle d'histoire. Hein ? Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.